Nous sommes ici à Cugin, plus précisément au lieu dit de la Villatte, pour une interview avec Kenny Kero. Bonjour à vous.
Bonjour.
Kenny Kero, vous êtes artiste, créateur sonore, plasticien, est-ce qu'on peut le dire aussi, et vous êtes en résidence en ce lieu à la Villatte, donc à Cugin, qui est un lieu de résidence d'artistes qui accueille justement différents projets. Vous allez nous expliquer justement aussi en quoi cela consiste, une résidence d'artistes, pour les auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas. Et puis après, on pourra discuter justement de ce que vous êtes en train de créer ici même, en ce lieu. Nous sommes dans une grande salle, il y a une installation avec des micros, des enceintes, un ordinateur. Il y a des branches, me semble-t-il, des livres. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais juste avant, est-ce que vous pourriez nous faire un petit topo de ce parcours d'artiste ?
Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu, moi je suis Kenny Kero, comme vous l'avez dit. Je suis artiste guadeloupéen. J'ai grandi et je suis encore basé en Guadeloupe. Il faut aussi dire que je suis revenu vivre en Guadeloupe, ce qui est une démarche particulière en tant que jeune, de revenir là-bas. Bref, ma pratique... Alors moi, j'ai notamment été formé dans la recherche en sciences sociales. Donc j'ai un master de recherche en art, littérature, langage de l'École des hautes études en sciences sociales, donc le HESS.
Donc une grande école, École des hautes études en sciences sociales. Donc pour les auditeurs et auditrices, c'est une des grandes écoles des sciences sociales, pour le coup, à Paris.
Oui. oui. Oui, j'ai surtout un parcours en sciences sociales, parce que j'ai une licence en sciences politiques, beaucoup étudié le droit, la géographie, même si... Enfin bref, voilà, j'ai fait ça. Mais mon master de recherche était sur le paysage, donc j'ai travaillé avec Jean-Marc Bess, qui est un spécialiste du savoir en géographie, et beaucoup entendu parler de Gilles Clément, dont le nom de la résidence Les Vagabondes s'inspire, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc c'est marrant parce que j'ai été diplômé en 2022 et j'ai pris un peu d'écart sur ces recherches, tout ce qui est philosophie du vivant, savoir sur le paysage, notamment en France, etc. Et j'y retourne, c'est assez chouette parce que j'avais pris de la distance parce que je suis rentré vivre en Guadeloupe, comme je le disais, me suis beaucoup intéressé... au savoir caribéen et guadeloupéen plus spécifiquement, et sur le rapport entre paysage, société humaine et, comment dire ça, territoire à risque, parce que moi je m'intéresse beaucoup sur les activités naturelles, géologiques, volcaniques, donc tremblements de terre, ouragans... éruptions volcaniques, raz de marée, et comment ces événements-là peuvent créer des histoires. Donc, je m'inspire rarement de faits réels, ou en tout cas, j'aime pas trop l'idée de ressasser les choses violentes. Donc, ces derniers temps, j'écris beaucoup de fiction, ou effectivement des... situations potentiellement catastrophiques se déploient, mais où il n'y a pas de dégâts humains, peut-être plus matériels, dans ce que j'écris, mais voilà.
Une question, École des hautes études en sciences sociales, ça forme des sociologues, des chercheurs en sciences sociales. Or, là, vous êtes invité en tant qu'artiste. Justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce travail d'artiste ? Il me semble aussi que vous travaillez avec l'IRCAM. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette autre casquette, on va dire, d'artiste et comment les deux, celle de chercheur de sociologue, on peut le dire, et celle d'artiste s'articule.
Alors, donc le master que j'ai fait est en art, Bref, je vais résumer. Et on avait la possibilité de valider avec un mémoire de recherche-création.
D'accord.
Donc déjà là, se poser la question de, OK, comment on allie un travail de recherche et un objet créatif. Et déjà à l'époque, donc moi c'était entre 2020 et 2022, se poser la question de comment, en tout cas pour le jury, comment il juge une œuvre d'art. On sait comment le faire avec un objet de recherche, la méthodologie est plutôt claire, mais je pense qu'il recherchait encore des méthodes pour caractériser ce qui était bien ou pas bien dans l'œuvre d'art proposée dans le cadre d'une recherche-création. Donc moi j'ai fait ça, et donc je suis vraiment resté dans ce courant-là, où je m'inspire beaucoup de la sociologie, bah, notamment il y a un livre ici de Benoît Giry, désolé si j'écorche son nom, mais je sais qu'il est, il est affilié à Sciences Po Rennes, sur la sociologie des catastrophes, donc c'est un peu ma bible à un moment, parce que en lisant ce livre, je suis tombé sur la recherche d'une sociologue américaine des catastrophes qui s'appelle Kathleen Tierney. Et elle a, enfin en tout cas, elle résumait dans le livre de Benoît Giry une partition des situations catastrophiques en trois situations, les situations d'urgence, de désastre et de catastrophe. Et donc je me suis dit que c'était un outil assez intéressant pour la performance. Donc là, devant mes yeux, ou en tout cas je vous le décris, on a un tableau avec trois colonnes, donc distinguées entre urgence, désastre, catastrophe, donc une tripartition, et où se déploient des choses. Donc pour urgence, ça sera impact loco-mineur, réponse principalement locale. Pour désastre, ça sera impact étendu sévère, réponse multijuridictionnelle. Enfin bref, et pour catastrophe, c'est encore autre chose. Et donc je me suis permis de tirer des éléments dans ce tableau-là et de les interpréter en performance. Donc pour urgence, j'ai découvert ce livre d'ailleurs lorsque j'étais en résidence à la Cité internationale des arts.
D'accord.
Donc je l'ai fait en 2024 à la suite de mon expérience en bibliothèque. Et donc je me suis vraiment lancé dans cette question de venir m'inspirer de ce tableau-là et de créer un orchestre de haut-parleurs, donc un acousmonium, sauf que je n'ai pas les moyens pour avoir un acousmonium. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté beaucoup de radios de seconde main, et dans l'intention de les activer de manière non synchrone, asynchrone donc, mais de créer un espace chargé en informations. Voilà, la trace de bibliothécaire était vraiment là ensuite, mais un espace chargé en informations sonores, visuelles, textuelles. Et vraiment venir submerger le public d'informations et de se poser la question de vers quoi vous vous dirigez ou vers quoi se porte votre attention lorsque cet espace est surchargé. Est-ce que ça se porte sur un texte? Est-ce que ça se porte sur un son particulier? Ou est-ce que vous vous laissez totalement submerger par ce flow?
Vous parliez justement à l'instant de désastre, urgence. C'est le nom de vos pièces. On peut les appeler comme ça, des pièces?
Oui, oui, oui. Urgence, désastre et catastrophe. Catastrophe n'est pas encore arrivée, mais ces trois-là sont des performances. Mmh. Et je lis ces performances-là à des installations qui sont, elles, des gammes mineures, des gammes modérées, des gammes majeures. Mmh. Donc ici, à Cugin, je travaille sur désastre et des gammes modérées. Mmh. Donc désastre, oui, est prévu, en tout cas. Je fais partie de l'Académie in situ de l'IRCAM. Et donc je montre une partie de désastre le 27 juin dans le concert de l'Académie. Donc ce que vous allez entendre, Mathieu d'ailleurs, est un extrait de cette pièce. C'est même un peu confus pour moi, dans le sens où je crée des objets et j'aime bien l'idée de les rassembler à un certain moment, qu'il y ait des ponts entre, par exemple, désastre et...
Alors, des objets sonores, pour le coup?
Pas vraiment.
Et des performances en même temps?
Ouais, en fait, j'aime bien le travail du temps sur les choses. Je crée des choses, elles sont là, mais avec le temps, elles finiront par trouver un sens. Mm-hmm. Pour l'instant, c'est des choses que je crée, mais peut-être qu'elles trouveront des manières de s'emboîter qui seront différentes. Mm-hmm. Par exemple, là, je crée des astres qui est, selon moi, l'introduction de dégâts modérés, qui est cette installation que je montre au CAPC de Bordeaux, donc à partir de juin jusqu'à février 2027. Et donc voilà, vraiment venir questionner, OK, comment la recherche aussi impacte le travail de création et comment elle vient peut-être donner du sens pour moi-même, hein, parce que à partir de lecture, à partir du temps, justement, le temps laissé aux œuvres de se reposer, et de se déployer et des retours que j'en reçois, d'écrire finalement une histoire concrète.
Est-ce que, tout simplement, vous pourriez nous expliquer la démarche de création sonore qui se fait à base notamment d'archives, de documents sonores, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre démarche d'artiste et de chercheur, pour le coup ?
Oui. Alors, donc, ma recherche, j'ai dit que c'était sur le paysage, mais c'était plus précisément sur le paysage sonore urbain, une étude sur Paris. À ce moment-là, je me suis confronté à la question de l'enregistrement, comment on vient capturer le réel. Et il y avait ce concept, je crois, de Raymond Beuré-Schaeffer, qui était la schizophonie, je crois que ça s'appelait, le fait de venir extraire un élément du paysage sonore, transformer déjà le paysage, parce que ça crée une extraction du paysage. C'était pas le paysage en soi, c'était une représentation de celui-ci. Et je crois que je me trompe, c'est peut-être pas Raymond Beuré-Schaeffer, mais Francisco Lopez ou quelque chose comme ça. En tout cas. donc je me suis permis, avec ces enregistrements-là, d'aller plus loin dans la modification. Si l'extraction était déjà une modification, rien ne m'empêchait d'aller plus loin dans cette modification-là, au final. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le traitement des enregistrements que je faisais. Je me suis intéressé aux samples d'autrui, mais la question des copyrights me fait beaucoup trop peur. Donc aujourd'hui, je me focalise sur ce que j'enregistre moi. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec ces questions d'enregistrement. C'est aujourd'hui avec quoi je bosse principalement. Sauf que j'arrive un peu au bout où ça... c'est chouette, j'aime bien, j'écris bien avec les enregistrements, mais j'aimerais bien rajouter un peu plus de complexité. Donc là, je rajoute un instrument, donc c'est l'harmonica, très simple, parce que je n'ai pas de pratique instrumentale, si ce n'est que par l'impro, où je m'amuse beaucoup au piano, je m'amuse beaucoup à l'harmonica. Là, j'ai commencé les cours de tambour chant, qui est un des instruments du masque guadeloupéen, donc en lien avec le carnaval. Et donc voilà, là je vais vers une pratique qui est beaucoup plus incarnée, beaucoup plus physique, et sur laquelle je fais discuter donc ces enregistrements-là et des pratiques physiques, quoi. Donc là, oui, c'est une interaction entre l'harmonica et l'enregistrement pour Désastre. Et voilà, et puis voilà.
D'accord. Dans ces créations sonores, ces différentes formes, il y a évidemment présente les questions écologiques dont vous nous avez parlé à travers les livres de recherche. Donc, des enjeux très contemporains. Ma phrase est un peu... Enfin, voilà, il y a vraiment ce sentiment d'urgence, pour le coup, qui y existe dans ces pièces sonores.
Oui. Enfin, c'est difficile hein, aujourd'hui de répondre. Enfin, je me suis engagé dans une recherche qui n'est pas simple. Parce que parler de ça aujourd'hui dans un monde où la guerre est un peu celle qui guide l'actualité, du coup, dans mon cas, c'est surtout l'intensification des événements climatiques hein, qui nous menacent particulièrement. Je pense aux îles touchées les dernières années, Jamaïque, Cuba...
soulignons-le aussi. Enfin, comment dire, c'est en Guadeloupe aussi. Enfin, il y a cette dimension évidemment aussi caribéenne qui se retrouve dans votre travail. Et notamment des questions climatiques. Qui touche les îles des Caraïbes. C'est quelque chose que vous développez dans vos différents projets. Pas que, évidemment, mais c'est une des dimensions de votre travail.
C'est le point de départ, ça c'est sûr. Je ne traite pas directement des événements climatiques. Je m'inspire peut-être plus des conséquences de ce qui se passe après. Donc oui, ces pièces-là sont nées en Guadeloupe. Ils utilisent des objets qui sont liés avec la Guadeloupe. La radio, elle est... Enfin, je travaille beaucoup avec la radio. Mmh. Pas en tant que diffusion, mais en tant qu'objet qui joue du son. Parce que c'est l'un des éléments centraux en cas d'urgence, justement, pour connecter avec l'extérieur lorsqu'il n'y a plus d'électricité. On met des piles, ça fonctionne encore, et on peut entendre ce qui se passe ailleurs. Mmh. Donc, ces objets-là ont nourri à la base cette recherche. Je crois que plus le temps avance et plus je me détache de la question écologique, même si elle reste, c'est le paysage dans lequel ça se décrit. Mmh. Mais ce qui se trame sont plus des interactions entre les objets et les humains. Mais le paysage est un acteur principal, quoi. Enfin, et le paysage, il est actif. Et donc voilà. Mais ce n'est pas que climatique, parce que je crois que les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre n'ont pas à voir avec nos conséquences à nous. Mais ça crée aussi des situations. Je pense notamment à l'éruption de 1976 en Guadeloupe, qui a été, lorsqu'on lit des recherches, j'oublie le titre ou les autrices, parce que je crois que c'est notamment des autrices qui ont rédigé cet article sur l'impact de cette éruption l'impact de cette éruption qui n'a causé aucun mort, mais l'éruption de 1976, il faut savoir qu'elle a déplacé un grand nombre de la population guadeloupéenne du sud de la Basse-Terre vers d'autres espaces beaucoup plus sécurisés de la Guadeloupe, et donc est vécue par ces personnes-là cette situation comme quelque chose de catastrophique. Donc c'est hyper intéressant pour moi dans ma recherche de me dire que il y a cet impact qui est, lui, est beaucoup plus... c'est traumatique et c'est touchant, mais personne n'a péri directement de cet événement-là, il me semble. Hein. Donc si c'est le cas, je m'en excuse. Mais donc voilà, c'est ce que j'ai pu tirer des recherches. Et donc c'est peut-être plus là que mon travail se situe, voir les conséquences de ces situations-là, des prises de décision aussi politiques. Il y a eu toute une bataille lors de cet événement-là de est-ce qu'on évacue ou non entre Haroun Taziev et Claude Allègre. Mmh. Et donc la conséquence de cette décision qui a ensuite amené vers ces situations-là, c'est les choses qui nourrissent mes recherches. Peut-être que pour catastrophe, je parlerai de cette éruption-là, mais peut-être plus d'une situation où il y a eu déplacement, mais c'est ce qui se passe après qui est catastrophique. Et ça peut être une catastrophe sociale. Moi, j'ai grandi dans une famille aidante. Ma mère s'est occupée de son frère et de sa sœur pendant 30 ans. Et j'ai grandi avec eux. Qu'est-ce qui se passerait si une chose de la sorte arrivait aujourd'hui pour moi? Comment je vivrais cette chose-là? Comment porter de l'aide et être aidant jusqu'au bout? J'ai vécu un tremblement de terre en Guadeloupe récemment, et l'une des questions qui m'a animé directement, c'était de protéger ma tante, parce que elle était totalement vulnérable dans ces situations-là. Et si on ne porte pas d'aide, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est plus ce type de catastrophe-là aujourd'hui qui m'intéresse, et donc je m'intéresse beaucoup là, dans ces cas-là, à la littérature japonaise, parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on partage une géographie à risque assez forte, et je m'intéresse pas mal à ce qu'ils écrivent, parce qu'ils l'écrivent avec beaucoup de liberté. C'est pas le monde dans lequel je vis, donc ça me permet aussi d'avoir beaucoup de distance. Mais en même temps, j'en tire tellement d'apprentissage sur l'endroit d'où je suis. Je pense notamment à un ouvrage de Oe Kanzaburo qui est MT, l'histoire des merveilles de la forêt, qui est pour moi un ouvrage tellement caribéen, parce qu'il se passe tellement de choses que j'ai vécues, alors que ça se passe dans un village retiré du Japon, qui rentre en résistance face à l'Empire japonais de l'époque. Donc, ou encore à Sawako Ariyoshi et les années du crépuscule, qui parle justement de cette situation d'aidante. Est-ce que ça vient créer chez la personne qui aide? Donc on suit une femme qui travaille, mais qui en même temps doit s'occuper de son beau-père qui devient sénile. Comment on gère avec ces situations-là, alors que dans son cas, elle a un foyer à gérer. Donc c'est assez intéressant, en tout cas ces choses-là m'intéressent particulièrement. Donc évidemment que je parle de la situation climatique, naturelle et toutes ces choses, mais je prends un peu de distance aussi, et voilà, pour explorer d'autres choses.
Ok. Thank you. assister à une de vos performances, justement. Une question, comment composez-vous ces pièces sonores, notamment qu'on a pu entendre à l'ordinateur? Comment cela se crée, avec quels matériaux, voilà.
Alors, ça se crée à partir... là, c'est... Je crois que c'est l'interaction entre quatre musiques que j'ai faites. Qui n'avaient pas pour intention d'être dans cette pièce-là. Mm-hmm. Cela dit, elles étaient là et il fallait que je voulais juste les mettre en avant et raconter une histoire à partir d'elles. Et donc, c'est vraiment par l'interaction entre ces formes que vient se composer la pièce. Et ensuite, je viens modifier les rythmes, les tonalités, etc. Mais donc, oui, ça... Je compose des documents et ensuite je viens modifier ces documents-là, on va dire. D'accord. Donc c'est comme ça que mes pièces sont écrites là, pour la plupart du temps. Voilà, et après j'adapte bien sûr. J'aime bien, enfin je travaille beaucoup avec voilà, ces documents.
D'accord, très bien. Et donc c'est une partie, on va dire, très numérique pour le coup. Et cette envie, ce désir de restituer de l'organique, notamment du son qui sort de l'harmonica. Enfin, il y a quelque chose ici de l'ordre de la méditation, on pourrait le dire comme ça. Enfin, dites-nous justement ce choix de choisir un instrument, notamment avant.
Non, mais c'est chouette que vous me fassiez ce retour, parce que c'est la première fois qu'on me le fait, étant donné que c'est la première fois que quelqu'un assiste à cette forme-là. Donc, c'est un adjectif méditatif qui me va parfaitement, qui traduit beaucoup l'état dans lequel je me trouve quand je suis en Guadeloupe. Mmh. Un état de tranquillité, beaucoup, 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 malgré toutes les situations assez inconfortables et désastreuses qui s'y passent, j'arrive quand même à trouver ces poches de tranquillité qui me sont chères. Et donc, l'instrument avant, j'utilise l'harmonica parce que c'est l'objet qui m'a trouvé, peut-être, pour poursuivre un peu la réflexion. Mais en tout cas, c'est l'objet que j'ai ramené en Guadeloupe et avec lequel j'aime bien m'amuser. Parce que j'ai vu, comme je vous le disais, j'ai l'envie d'aller vers une forme plus physique de performance sonore. Mais on a quand même cet a priori, parfois, je pense, un peu de « je ne sais pas faire, quoi ». Et enfin, en tout cas, ça peut arriver. et cet objet-là, en fait, il ne prend pas de place. Je peux l'amener un peu partout. Je peux jouer seul et c'est rarement inconfortable. C'est plutôt agréable comme son, même quand on ne sait pas vraiment jouer. Donc, c'était cet objet-là de base. Mais ce qui est assez intéressant et qui est une réflexion qui m'est venue durant cette résidence, donc d'où encore la richesse des temps de résidence, parce que le temps de la recherche est présent, j'arrive à relier cet instrument avant à un autre instrument avant qu'on a en Guadeloupe, qui est la conque de Lambi. Donc en fait, qui est un instrument qui est beaucoup joué dans le cadre de groupes de carnaval, notamment du MAS, comme je le disais, et qui historiquement, il me semble, et ça reste à confirmer, mais je crois que c'est évidemment le cas, était utilisé pour alerter. À l'époque, donc, c'était vraiment un outil de résistance. D'accord. En fait, je crois que durant la période Kalinago, des pirogues ou d'autres personnes arrivaient et donc hop, on soufflait dans la conque de Lambi pour alerter. Et il me semble que dans les épisodes de marronnage en Guadeloupe, c'était également le cas. Mais c'est aussi pour ça que je dis que ça reste à confirmer, parce que c'est une information que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas fait moi encore la recherche nécessaire pour valider ce que je dis. Cela dit, il est intéressant de voir cette interaction-là, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, où une partie de la pièce sonore enregistrée a ses qualités de désastreuse, hein, c'est assez inconfortable, un son quand même assez lourd, et donc cet instrument qui vient lui...
Angoissant aussi, quelque chose, on sent le chaos du monde d'une certaine manière.
Et puis cet objet qui lui vient peut-être alerter. Donc c'est comme ça que j'arrive à le traduire aujourd'hui. Donc... je reçois un message, parce que dans cette pièce, il y a de l'harmonica, dans cette pièce sonore. Et donc, je reçois ce message de l'harmonica dans l'enregistrement et j'y réponds. en physique. Donc c'est ce dialogue-là, cette conversation-là sur laquelle je travaille. C'est pour ça que c'est aussi très répétitif en termes de notes. Je ne cherchais pas à montrer une prouesse ou quoi, hein. C'était juste dans cette idée de relayer un son et de prévenir, peut-être.
Eh bien, merci justement de nous expliquer voilà, la formation de cette création artistique. Comment évidemment qu'il n'y a pas comment dire de plan de projet, cela, enfin, est-ce que vous pourriez nous expliquer, l'harmonica arrive sans que vous l'ayez projeté réellement? C'est lié à la vie, le fait.
Comment ça, pardon?
Voilà, c'est lié à un besoin, une envie de
d'alerter.
Oui, notamment aussi, mais c'est l'envie organique de jouer avec, de sortir du monde des ordinateurs pour revenir à quelque chose de plus organique. Et voilà. Oui. Ou alors, c'est vraiment le sens de l'alerte grâce à des instruments. Enfin, voilà.
Le sens de l'alerte, c'est peut-être un prétexte, dans le sens où ça me permet de faire une suite logique. Mais l'intention, elle est vraiment dans ce que vous avez dit, de cette incarnation organique de l'instrument, qui est vraiment quelque chose que... Enfin, je souhaite explorer aujourd'hui cette idée de venir pratiquer, quoi. Parce que j'aime bien travailler sur l'ordi, mais j'y passe trop de temps. Et au final, les moments où j'ai vraiment passé du temps à faire de la musique, c'était au bord de la plage, jouer de l'harmonica, quoi. Donc c'était aussi cette envie de ramener ça, cette pratique-là que j'ai, qui est totalement... la mienne, et en tout cas c'est ma pratique à moi, je l'explore de ma pratique, mais c'est un processus d'apprentissage aussi, de montrer ces éléments, en tout cas ce stade de mon évolution dans ma pratique. Donc encore une fois, hein, j'applique ça aux œuvres, mais j'applique ça aussi à mon processus d'apprentissage dans les choses. Je ne prétends pas être un joueur d'harmonica, mais je le suis de fait. Et il y a aussi ce plaisir que je prends, là, en tout cas que j'ai pris récemment, j'ai mentionné Albert Labyrinthe, mais on a pu performer ensemble. Donc lui, il joue de la flûte, par exemple, et entre autres. Et on a pu faire cette performance chez Nadia Judith, justement, où on était à deux dans une salle un peu retirée. On a demandé aux gens de ne pas venir voir, mais d'entendre justement ce qui se passait dans cette salle retirée. Et c'était un moment, pour moi, qui était phénoménal. On a eu les mêmes visions de nous qui jouions sur des scènes. Enfin bref, c'est peut-être un peu, comme on dit aujourd'hui, une forme de manifestation, en tout cas manifestation personnelle, d'attirer à moi cette vision-là. Mais après, c'est juste pour avoir plus de fun, quoi. J'ai juste envie de m'amuser un peu plus et... C'est bien, j'adore ce que je fais en écriture électroacoustique, notamment sur l'ordi, etc. Mais ouais, je voulais un peu plus de fun, d'impro, de lâcher prise, pas me prendre la tête.
Une dernière question. Ces projets, évidemment, sont destinés à être montrés, exposés, joués. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les prochaines dates, ou les lieux, la vie de ces œuvres à venir?
Eh bien, je suis pas très bon communicant, ni comment dire, j'ai quand même des opportunités, mais je reste un artiste qui débute, donc c'est aussi la chance que j'ai, hein, et Latif a le souligné, c'est que c'est donner l'opportunité à quelqu'un qui est au début de sa carrière artistique, en tout cas d'artiste, de disposer d'un temps comme celui-là. Cela dit, j'ai quand même des belles opportunités, comme je disais. Mes œuvres sont montrées en ce moment au Memorial Act, qui est un musée de Guadeloupe, donc ça fait du bien de pouvoir montrer chez moi, pour une expo qui s'appelle « Nous, un pays rêvé ». L'installation pour Bordeaux, donc c'est au CAPC de Bordeaux, donc ça sera dégâts modérés.
Le CAPC?
Alors, je sais pas.
L'acronyme.
Mais l'acronyme, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je pense que c'est Centre des Arts Plastiques Contemporains, quelque chose comme ça. Et pour le Musée d'Art Contemporain, donc de Bordeaux, où je présente deux œuvres. Donc, il y a Dégâts Modérés, mais il y a aussi une œuvre que j'ai faite avec quatre autrices guadeloupéennes. Donc l'œuvre s'appelle Paroles, textes et sons, et où je mets en conversation les textes de Daria Hamlette Couvin, Doris Céleste Pricat, Sarah Couvin et Muriel Claudine Florent. Et donc voilà, j'ai eu le soutien pour ça de la Fondation des artistes. Donc je suis très content pour déjà rémunérer les personnes avec qui je travaille pour leurs textes et leurs voix. Et donc ça sera montré à la bibliothèque Méria Deck, si je ne me trompe pas, donc à Bordeaux, pour la même exposition qui s'appelle le Blackground, Murmure des Mornes. Et donc Désastre, ça, elle sera montrée à l'IRCAM, évidemment, le 27 juin, et j'en suis très content. Cela dit...
Donc à Paris.
À Paris, oui. cela dit, peut-être tant mieux, parce que j'essaie encore de choisir, enfin, en tout cas, de faire des choix sur comment relier Désastre et Dégâts modérés. Parce que ce sont deux pièces qui ont un lien. Et avec le temps, ce lien-là prendra du sens. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore de lieu de monstration. Mais ce temps de résidence m'a permis de répondre à des questionnements que j'avais. Donc c'est très chouette. N'hésitez pas à me contacter, j'imagine.
Oui, vous avez un site aussi, disons-le.
Oui. Alors www.kenikero.com. Donc c'est AIRO comme la ville en anglais. Et voilà.
Où l'on peut découvrir notamment un aperçu de vos travaux. Et voilà, très bien. Alors, merci, Kenny.
Avec plaisir, merci à toi.